Bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe sur les ondes de CKRL 89.1. David Rocketship accompagné de
Patrick Anctil. Yeah! Salut tout le monde! On va expliquer l'inexpliqué, explorer l'apocalypse, le couvre-feu. Qu'est-ce qu'on explore cette semaine, David?
On explore l'apocalypse à venir. Hein? On sait qu'on est en apocalypse.
Oui. Qu'est-ce que ça vous prend de plus pour le réaliser? On est tous couchés à 8 heures. On a un masque dans la face. Les magasins sont fermés, je pense que c'est du concret.
On peut pogner l'étiquette pour aller voir nos parents. ouais, ben c'est ça, Fréquence d'Outre-Tombe, qu'est-ce qu'on fait? Ben on vous raconte des histoires effrayantes, on recueille des témoignages paranormaux. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire vos témoignages paranormaux sur la façon la plus facile, ce serait via Facebook.
Sur notre page Facebook de Fréquence d'Outre-Tombe. Alors, vous pouvez nous faire parvenir des petits témoignages, des petites histoires et peut-être plus, peut-être des poèmes, peut-être des petites nouvelles. On est bien ouvert à vous lire en ondes si c'est effrayant, dégoûtant et bien d'autres.
Yeah, on vous lit, promis, puis on vous lit en ondes si c'est assez cool.
Oui.
Si ça passe notre filtre.
Sinon, il y a toujours le courriel à l'adresse.
Oui, outretombe.ckrl@gmail.com. Donc, outretombe.ckrl.
Puis, vous pouvez toujours nous appeler, mais on n'a pas le droit d'aller au studio, donc on va s'y prendre différemment.
C'est ça, exact. Good. Yeah. Qu'est-ce qu'on a au menu ce soir, Pat?
Oui, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Je pense que tu as une belle histoire à nous raconter, hein? Une histoire d'actu.
Oui, j'ai une histoire d'actualité. Ben, en fait, ce que j'ai fait pour cette semaine, c'est que je me suis exercé un peu à un exercice de genre, on va dire. Tu sais qu'en science-fiction, un des thèmes ou une des façons d'écrire qui revient souvent, c'est qu'on imagine une légère différence sur la réalité.
Oui.
Puis on essaie d'imaginer les impacts que ça aurait.
Oui.
Fait que c'est un peu ce que j'ai fait cette semaine. J'ai joué le jeu. Je me suis dit, qu'est-ce qui arriverait si on était, plutôt que d'être en mesure de distanciation sociale à cause d'un virus, si on était obligé d'être tous très très près les uns des autres, bon, pour des raisons qu'on va expliquer de façon, plus ou moins maladroitement dans l'histoire, là. C'est aussi scientifique que je l'ai pu, mais ouais, c'est ça.
Cool, mais moi justement, j'adore la science-fiction pour ça, parce que j'ai toujours été très impressionné de constater à quel point certaines œuvres qui autrefois étaient de la science-fiction, bien, ça le finit par se concrétiser, par se matérialiser. Souvent, bien des choses qui se passent, bien, la science-fiction l'avait vu venir plusieurs décennies à l'avance. J'ai toujours été très, très impressionné. C'est comme si les auteurs de science-fiction étaient, d'une certaine manière, des devins ou du moins avaient la faculté de voir venir les choses plus que les autres.
Oui, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Peut-être que c'est dû au fait que, ben, c'est ça, on imagine plein de scénarios, puis on essaie d'imaginer la réaction à l'humain puis à la société face
oui,
à ça.
Oui, donc, tout à fait.
T'sais, avec le temps, ben si on regarde, je sais pas moi, 70 ou 80 ans, mettons qu'on commence dans les années 50, on compte 70 ans de science-fiction.
Oui.
Ben il y en a plein des directions qu'on a pris depuis
qui ont
pu être imaginées une fois ou une autre. Puis tu sais, ouais, c'est quand même vraiment très.
Oui, oui, comme George Orwell avait écrit des choses en 1948 qui, en 1984, plusieurs s'étaient concrétisés. Qu'on pense aux films de robots, qu'on pense aux films qui touchent à la technologie, à plein de choses. C'est vraiment fascinant.
C'en est effrayant même. Hein?
Oui, effrayant. On jase comme ça, là. Toi, David, est-ce que tu penses qu'avec tes talents là, d'auteur de science-fiction aussi et d'histoire, tu penses-tu que d'ici les 2, 3, 4 prochaines années, avec ce qui se passe, on va assister à l'effondrement de la société?
Ah, ben je pense que l'effondrement de la société telle qu'on la connaît est un incontournable qu'on va voir de notre vivant.
Oui.
Faut juste se faire à l'idée.
Oui, moi aussi, je pense ça.
C'est ça. Pratiquer le laisser-aller puis le prendre avec un brin d'humour.
Yeah! Bon, ben sur ces belles paroles réjouissantes, on va écouter ton histoire.
On écoute mon histoire qui s'intitule « L'environnement toxique ». Ariane a 9 ans. Elle est désespérément à la recherche de son petit frère, Simon, âgé de 6 ans. Il doit bien être ici en quelque part. Il était là il y a 2 minutes. De toute façon, il ne peut pas être bien bien loin, on n'a pas le droit de sortir de la bâtisse. Elle l'appellerait en criant s'il n'y avait pas autant de bruit, s'il n'y avait pas autant de monde. « Ariane est présentement dans le sous-sol du centre communautaire du Rocher, dans le quartier Saint-Sauveur de la Basse-Ville de Québec. L'immeuble est bondé, chargé à bloc. Environ 1000 personnes du quartier sont entassées, presque épaule à épaule, dans les quelques grandes pièces du bâtiment. On parle fort, on discute, on rit. Les gens du quartier prennent plaisir à croiser leurs voisins, la fille qui travaille à microbrasserie ou bien le caissier du dépanneur dans cet environnement inhabituel. Ariane patauge dans ce milieu désorganisé, cacophonique et anxiogène pour la petite fille de 9 ans qu'elle est. Elle cherche son frère, qui doit pas être passé bien, bien loin. Il fait chaud, il fait humide. L'air est lourd des odeurs corporelles des quelques 1000 personnes à l'étroit autour d'elle. Du haut de ses 4 pieds, son champ de vision est rempli de torses, d'épaules ou de ventre. Elle doit se frayer un chemin sans être capable d'éviter de courts mais désagréables contacts non désirés avec ses innombrables avant-bras poilus et gluants de sueur qui pendent le long d'autant de corps irradiants de chaleur nauséabonde. Son petit frère aime la musique. Il a peut-être filé en douce au 2e étage. Là-bas, dans une des grandes salles du centre communautaire, on a installé une scène et quelques groupes locaux joueront ce soir pour adoucir les tensions et divertir la population en ce temps de crise. Oui, j'ai bien dit tension et temps de crise. Vous voyez, les gens ne sont pas rassemblés ici aujourd'hui uniquement par gaieté de cœur. Ils le sont contraints par un décret gouvernemental, en fait. Bon, là, je vois les points d'interrogation sur vos faces, là. Attendez un peu, je vous explique le contexte. Mais écoutez attentivement parce que c'est un peu technique. Il y a un petit peu de science là-dedans. Mais inquiétez-vous pas, là, je vais essayer de faire ça simple. Donc, vous connaissez le pergélisol, cette zone géologique qui reste gelée en permanence, même l'été. On a appris ça au secondaire, au primaire même peut-être, en tout cas, je suis plus certain. En tout cas, depuis une trentaine d'années, la limite où le pergélisol commence n'arrête pas de se déplacer vers le nord. En Russie, en Scandinavie, au Canada, ça représente des millions de kilomètres carrés qui, chaque année, dégèlent pour la première fois depuis des millénaires. Ce phénomène est évidemment dû au changement climatique. Il a été à peu près impossible pour les spécialistes de prévoir les effets que ça allait engendrer sur la population. C'est au début sur la qualité de l'air que les premiers effets ont été observés. Des vastes nappes phréatiques et des cours d'eau souterrains se retrouvaient maintenant liquides, ce qui engendra d'immenses tassements de sol puis d'activités volcaniques même, là où on n'en avait jamais mesuré dans l'ère scientifique moderne. Le phénomène a libéré des quantités considérables de soufre et d'acide venus des profondeurs de la Terre. En se libérant ainsi dans le sol, il créait d'énormes zones là où l'air était devenu irrespirable. Les experts avaient sonné les premières alarmes vers la fin de 2019, puis au début de 2020, ça avait été une véritable hécatombe. Presque tous les êtres vivants, humains, mammifères, oiseaux, les insectes et même plusieurs sortes de plantes avaient perdu la vie en quelques mois au nord du 55e parallèle. Les résultats avaient été particulièrement dévastateurs en Europe. Cet air dangereux et empoisonné était insidieux parce qu'on ne le voyait pas, on ne le sentait pas, mais il venait par vagues, un peu comme d'énormes nuages incolores mais meurtriers. Un humain moyen pouvait en respirer une quantité raisonnable sans trop de problèmes. Mais lorsque la concentration dans le sang atteignait un certain seuil, il s'ensuivait une réaction en chaîne occasionnant des symptômes atroces et irréversibles. À cause d'une réaction chimique entre le poison et l'oxygène dans le sang, les vaisseaux sanguins des victimes se mettaient à prendre de plus en plus de volume. Sous la pression, les veines se gonflaient et finissaient par générer des dommages aux tissus les plus faibles. Ce sont souvent les yeux qui étaient les premiers touchés. Les petites veines de la sclère et du corps vitré finissaient par éclater, laissant une bouillie effervescente derrière elles. Un peu comme si les yeux éclataient, puis fondaient, littéralement. Là, la victime devenait aveugle. Puis, c'est souvent la langue qui se mettait à gonfler dans la bouche, ce qui empêchait la communication verbale et la capacité de s'alimenter. Dans le pire scénario, l'enflure devenait si importante que les voies respiratoires en étaient obstruées et la victime finirait par mourir asphyxiée. Et les quelques chanceux qui survivaient à cette étape ne faisaient que reporter leur malheur, puisqu'il s'en suivait une horrible et douloureuse hémorragie interne généralisée. Tous les organes se gonflaient puis se déchiraient dans une marée de sang bouillonnant, pétulant. Les tripes se lacéraient, les poumons se déchiquetaient, les cerveaux se labouraient dans le crâne des pauvres, sous la pression du sang qui finissait par jaillir de tous les orifices afin de se libérer de la pression accumulée par la réaction chimique. Un peu comme une canette de liqueur qu'on aurait trop shakée avant de l'ouvrir. Les conséquences étaient horribles, mais étonnamment et heureusement, elles épargnaient les personnes âgées ainsi que celles ayant une moins bonne capacité pulmonaire. Vous trouvez ça bizarre? Mais c'est facile à expliquer. Je vous explique. Le taux d'oxygène était plus bas que la moyenne. Ils avaient une sorte d'immunité, en sens qu'ils pouvaient tolérer une plus grande exposition à la toxine sans que la dite réaction chimique effervescente ait lieu. En gros, moins d'oxygène dans le sang, moins de réactifs, donc moins de danger. La population de 70 ans et plus était donc libre de leurs allées et venues, mais on surveillait de façon plus serrée les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en santé. Les scientifiques s'étaient penchés sur le phénomène dès le début. Mais comme le problème était nouveau, les indications des différentes organisations de santé publique manquaient souvent de cohérence et se contredisaient même à l'occasion. Du côté de la population, on ne savait pas trop comment gérer ça. Certains avaient peur, c'est sûr, et se mettaient à agir de façon irrationnelle. On avait remarqué une tendance inexplicable à faire le plein de coton-tige, ces bons vieux Q-tips. Ils étaient en rupture de stock à peu près partout, mais pourtant n'avaient rien à voir avec le problème ni les symptômes. Bizarre. Puis, vers la mi-mars 2020, une percée scientifique vint changer la donne. On avait trouvé une façon de protéger grossièrement la population contre les effets de cet air perfide. Rassembler les gens dans des endroits fermés avait pour effet de réduire le taux d'oxygénation dans le sang. Comme le taux de CO2 dans l'air augmente quand plusieurs personnes sont présentes dans la même pièce, le taux d'oxygène dans le sang, lui, diminue, ce qui augmente le seuil de tolérance aux effets morbides de l'air toxique. C'était loin d'être une science exacte, puis on s'adressait toujours pas à la vraie source du problème, mais les différents gouvernements, basés sur le résultat des tests confirmés par les plus grands laboratoires du monde, se mirent à instaurer des décrets allant un peu comme suit. À partir de maintenant, toute la population devait se soumettre à des mesures de rapprochement social. Désormais, il était interdit de rester seul dans une pièce. Il fallait en tout temps être à proximité d'autres personnes. Il ne fallait pas passer plus d'une demi-heure dans un endroit où il n'y avait pas au moins quelqu'un à tous les 2 mètres carrés. Les gens vivant seuls étaient obligés de se rassembler à raison de plusieurs personnes par appartement. Psychologiquement, ces mesures affectaient plus particulièrement les petites familles nucléaires qui avaient envahi les banlieues dans les dernières années. Avec leur profil psychologique plutôt narcissique, égoïste et un niveau d'éducation moins élevé, les banlieusards l'avaient un peu plus dur. Eux, habitués de vivre dans ces grandes maisons dans lesquelles il y a plus de pièces que d'humains, se voyaient obligés de se concentrer à plusieurs familles dans la même maison afin de respecter le taux de rapprochement imposé par le gouvernement. Habitués de vivre chacun pour soi dans leur petit univers acquis à crédit, entre 4 murs de gyproc blanc puis protégés par autant de clôtures de bois repeinturées en blanc, elles aussi, une fois tous les 2 ans, il y a eu plusieurs sources de friction quand on leur a demandé de faire leur part, de serrer les coudes, littéralement, et de coopérer avec leur entourage. La grogne faisait rage au domaine de la tondeuse et du cabanon, au point où la police dut intervenir dans plusieurs cas de chicanes qui étaient devenus violentes et même meurtrières. On pouvait entre autres penser au cas de Mme Beaulieu, 64 ans, à Saint-Romuald. Elle avait toujours été dévouée à sa famille et s'était toujours acquittée de ses tâches dans la maisonnée sans rechigner. Cuisine, lavage, ménage, depuis son mariage, tout ça avait été sa responsabilité. Quand, dans le contexte, ses 3 enfants ont réaménagé dans la maison familiale avec les 7 petits-enfants, ça n'a pas été rose longtemps. On s'attendait toujours à ce qu'elle s'occupe de tout le monde sans jamais rien demander en retour. Mais après quelques semaines à cuisiner, à laver, à torcher et à tout nettoyer, tout ça entouré de ses petits-enfants mal élevés qui accordaient plus d'importance à leur tablette électronique qu'à leur grand-mère et qui y enlevaient les yeux uniquement quand c'était le temps de demander encore et encore et toujours demander, Madame Beaulieu avait fini par péter les plombs. Ça avait fait les journaux, ça avait fait les manchettes. Je vous le compte-tu? Ah oui, je vous le compte. Écoutez bien ça. Après un repas particulièrement tumultueux, alors qu'elle desservait la table, toute seule évidemment, elle a demandé à son petit-fils, Noé, de lui passer son assiette. Lui était assis à l'autre coin de la table. Les yeux rivés sur son iPad, en train de jouer à je sais pas quelle version insignifiante de Candy Crush ou je sais pas quoi, il a ignoré sa grand-mère, mais juste assez longtemps pour qu'elle explose de colère puis lui casse carrément son assiette dans le visage. L'assiette a éclaté en 1000 morceaux, puis le jeune s'est mis à saigner d'une dizaine de petites coupures, ici et là, dans sa face, sur son front, sur sa joue, son menton. Son père est sorti de ses gants. « Voyons, maman, qu'est-ce que tu fais là? » Mais Madame Beaulieu voyait noir, puis enragée, elle attrapait un couteau sur la table. Le premier du bord, juste un petit couteau à la table, là, ben niaiseux, elle a sauté sur son fils, puis elle l'a poignardé à 12 reprises, en commençant par le cou puis la gorge. Après plusieurs secondes de choc puis d'incrédulité, les autres membres de la famille ont fini par maîtriser la dame, mais le pauvre n'a pas survécu à ses blessures. Les incidents du genre étaient devenus chose normale. Plusieurs fois par semaine, on entendait donc une ou deux quelques histoires semblables où une personne relativement banale finissait par craquer sous la pression. Puis comme l'accès aux soins de santé mentale n'avait jamais été une priorité électorale à la mode, ben on n'avait aujourd'hui ni le personnel, ni l'infrastructure pour traiter tous les besoins. Mais malgré toutes les mesures mises en place par le gouvernement, le problème persistait et s'empirait. Faut dire que les mesures en question étaient plutôt maladroites puis incohérentes. Les décideurs faisaient bien ce qu'ils pouvaient pour tenter de limiter les dégâts, mais ils n'osaient pas s'attaquer à la vraie source du problème. Le réchauffement climatique était à l'origine de la situation, mais s'y attaquer coûterait énormément cher. Pour arriver à freiner le phénomène, il fallait ralentir la consommation de cochonneries made in China, slacker la production, forcer les électeurs à revoir leur style de vie pour un style de vie moins rapide, plus humble. Pour un gouvernement, ça voulait dire d'énormes impacts économiques, et comme ça risquait d'affecter les intentions de vote, tout le monde veut pouvoir continuer d'acheter de la scrap chez Dollarama et la sacrer au vidange deux jours après, tu sais. On préférait, politiquement, pas s'aventurer dans cette direction-là. De toute façon, tant qu'on était en crise, il y avait de la peur puis de l'insécurité et le peuple était plus docile. Certains citoyens s'adonnaient même à dénoncer des voisins ou des situations qui, selon eux, respectaient pas les mesures de rapprochement social en place. Si quelqu'un se faisait aller prendre une marche en forêt ou travailler ou habiter seul dans une pièce, il y avait inévitablement une taupe qui allait appeler la police. On allait vérifier qu'elle t'a donné d'énormes contraventions. Sauf si tu avais plus que 70 ans. Là, tu pouvais faire ce que tu voulais. Si t'étais asthmatique ou que t'avais d'autres problèmes de santé pulmonaire, t'étais exempté aussi. Est-ce qu'il y avait un papier ou un formulaire à traîner avec toi pour le prouver? Ben, pas vraiment, c'était pas clair, comme zone grise un peu. Comme toutes les indications du gouvernement, en fait. On avait décidé de s'occuper de rien, de laisser de la discrétion aux policiers. Évidemment, le policier moyen a la même capacité de jugement qu'une paire de vieux chouclacs sales, fait que les cafouillages puis les abus étaient nombreux. Mais le parti en place s'en lavait les mains. Raconter des menteries puis ignorer les problèmes en conférence de presse semblait assez pour satisfaire le citoyen moyen. On avait même remarqué qu'étrangement, les gens semblaient même tout à coup plus enclins à considérer la classe politique un peu comme des bons pères de famille, puis toutes les bévues puis les ingérences étaient aussitôt pardonnées. Le gouvernement en profitait et faisait donc double jeu. On donnait l'air d'être concerné et de gérer la crise en façade, mais on l'entretenait, ou du moins on refusait de vraiment s'y attaquer dans les coulisses. Après un an à endurer ce phénomène anxiogène, on vit une recrudescence dans le nombre de victimes de ces vagues d'air toxiques. Afin de s'assurer que tout le monde était bien en rapprochement social et non éloigné ou bien seul, on décréta qu'à partir de maintenant, tous les soirs à compter de 20 heures, on devait se rassembler dans l'endroit prévu à cet effet. Chaque ville, chaque arrondissement, chaque quartier avait son gymnase d'école, son sous-sol d'église ou son centre communautaire et on y entassait les gens comme des sardines. De 20h à 5h du matin, c'était obligatoire d'être dans l'endroit désigné selon son adresse. Ce qui nous ramène à Ariane, donc, qui cherche son petit frère Simon dans un centre du Rocher surpeuplé. Sa mère était en train de préparer leur lit pour la nuit. Chaque personne s'était vue attitrer un petit coin dans le gymnase avec un petit lit de fortune. C'était loin d'être agréable et encore moins confortable. Mais cette mesure ne devrait pas durer plus qu'un mois. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit à TV. Quand était venu le temps de se mettre au lit, on avait remarqué que Simon, le petit frère, n'était pas dans le coin. La mère d'Ariane lui avait donc demandé d'aller le chercher. Après une demi-heure à essayer tant bien que mal de se déplacer dans la masse humaine, il l'appelait en vain et a demandé à quelques visages familiers si on l'avait aperçu. C'est au deuxième étage qu'Ariane allait tenter sa chance. Elle monte donc l'escalier, froid et dur. Ses petits espadrilles bon marché, un brin trop grand pour elle, évite soigneusement les pieds des mille et un flâneurs qui occupent la cage d'escalier, tentant de se trouver un petit coin un petit peu moins populeux. La montée l'amène sur le couloir principal, sur lequel donne quelques grandes pièces. Elle prend celle de gauche. Elle se rappelle être venue accompagner sa mère dans cette pièce-là la dernière fois qu'elle était venue voter. Elle se rappelle qu'il y avait presque autant de monde dans la cage d'escalier, ce qui lui semble un peu étrange sur le coup. Au fond de la salle, les musiciens sont en train de finir un morceau qui sonne un peu rock'n'roll, mais plutôt de calibre garage. Le chanteur porte un énorme chapeau haute forme et un look victorien. Il fait tourner un tambourine autour de son cou pendant que la claviériste se martèle la tête avec son instrument, créant un effet de mur de son un peu tout croche. Le bassiste lui est couché sur le dos puis donne l'effet de faire une crise d'épilepsie, alors que la percussionniste du groupe court autour de sa batterie en frappant celle-ci de façon plutôt freestyle. L'effet est finalement plus intéressant pour les yeux que pour les oreilles, mais Ariane se dit que c'est probablement voulu. Tout près de la scène, elle aperçoit son frère, se tapant dans les mains et sautant au rythme cacophonique de cette attraction tout aussi théâtrale que musicale. « Simon aime la musique », se dit-elle. Elle avait su qu'elle le trouverait près du son de la batterie et de la guitare électrique. Sans perdre une seconde, elle met le cap en ligne droite vers le jeune homme. Elle doit jouer du coude pour l'atteindre et elle est ralentie par une bonne demi-douzaine de « Hey, fais attention !» puis de « Voyons, regarde où tu vas, petite fille !» Mais son objectif est clair et elle finit par atteindre le garçon une minute plus tard. Elle l'agrippe par le poignet et lui dit « Ah ouais, viens-t'en, c'est l'heure de se coucher, on te cherchait partout !» Le retour vers leur mère est tout aussi laborieux qu'elle a été l'aller. L'omniprésence de sueur dans l'air commence à lui tomber sur le cœur et elle soupçonne même que quelques badauds se soient lâchés pas longtemps avant qu'elle passe près d'eux, toujours avec son jeune frère sur les talons. Rendue en bas, elle passe devant les toilettes. C'est toujours bondé, on parle fort. L'odeur près de cet endroit est maintenant infecte et Ariane doit retenir un haut le cœur. Mais il n'est pas question de ventiler ou d'ouvrir les fenêtres. Le taux d'oxygène est strictement surveillé. Il doit rester assez bas pour prévenir la dite réaction sanguine. Par réflexe, elle regarde vers la porte qui donne sur l'extérieur. Un agent de sécurité se tient devant pour empêcher quiconque de sortir. Puis, elle voit un homme, lui aussi pris d'un haut le cœur, littéralement plongé sur l'agent de sécurité en question, qui perd pied puis qui peine à se relever. L'agresseur en profite donc pour enfoncer la porte et sortir, et six ou sept autres personnes le suivent, excitées par l'attrait de cette bouffée d'air frais. Le garde se dépêche de refermer la porte et menace de recourir à la violence si on tente encore le coup. Curieux, Ariane et son frère grimpent sur le radiateur à eau chaude pour regarder par la petite fenêtre en demi-sous-sol qui donne sur la rue, là où les quelques indisciplinés sont sortis. Ils sautent, dansent et chantent, tout en occupant le plus d'espace qu'ils peuvent, rassasiés de sentir l'air froid et sans odeur entrer dans leurs narines puis dans leurs poumons. Ça prend que quelques minutes avant qu'un d'eux tombe à genoux sur la chaussée, les mains portées vers les yeux. Ceux-ci éclatent dans leurs orbites et les enfants peuvent voir le sang gicler entre les doigts du malheureux. Puis, toujours à genoux, il se met à crier, alors que sa langue gonfle au point d'étouffer ses cris. Un de ses camarades connaît le même sort, mais lui, au moment où il s'effondre au sol, des puissants jets de sang sont propulsés de son nez et de ses oreilles. Ariane ne peut s'empêcher de voir une ressemblance entre la scène et ce jouet, un éléphant en plastique connecté sur la hausse à jardin qui crache de l'eau par la trompe. Mais ici, c'est pas de l'eau, mais bien du sang chaud et visqueux, agrémenté d'indistincts morceaux d'organes internes déchiquetés en lambeaux qui est propulsé dans toutes les directions. Il vient pas d'un éléphant en plastique, mais bien d'humains, qui était bel et bien vivant et en santé pas plus tard qu'il y a une minute. Choqué par la macabre situation et se disant que c'est peut-être pas une bonne idée que son frère de 6 ans voit ça, Ariane reprend le chemin vers sa mère, toujours en agrippant le garçon. En arrivant à leur endroit désigné, les enfants trouvent leur mère allongée dans son lit avec un minuscule poste de radio FM entre les mains. « Bon, vous êtes là? Merci Ariane d'avoir trouvé ton frère. Venez vous installer là, il y a Fréquence d'Outre-Tombe qui commence à la radio. » À CKRL. J'aime bien ça, ce programme-là. Elle monte le son un brin, afin d'enterrer le brouhaha latent causé par les 1000 voix qui les entourent. À la radio, deux jeunes animateurs racontent des histoires d'épouvante. Ce soir, ils ont inventé un scénario tout à fait farfelu. Un monde étrange où il était interdit de se voir, de se toucher ou de se parler en personne. Un étrange univers où l'on risquait de fortes contraventions ou même la prison si on allait visiter ses parents, où les gens devaient rester seuls, isolés, tout le temps. Où les rassemblements, les spectacles, l'art et la culture sont totalement inexistants. Puis, elle s'exclame. « Ah, ils sont assez capotés à cette émission-là, j'aime ça. Ils arrivent toujours avec des idées de fous. Je me demande bien où ils vont chercher tout ça. »
Yeah! Ben écoute, c'était vraiment une histoire d'actu. T'as traité de plein de sujets d'actu. Autant du gaz que de la politique, que toutes sortes de choses.
Du Dollarama.
Oui, franchement, c'est très, très complet. Très bonne histoire. Yeah!
Cool, on s'est bien amusé. J'espère que vous avez apprécié. C'était David Rocketship et
Patrick Anctil pour Fréquence d'Outre-Tombe sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec, la ville de l'Outre-Tombe et des Ténèbres.